Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est l'Intégral Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec une Dream Team au complet pour vous accompagner justement en ce début de soirée. Marion Hidalgo avec moi et Sébastien Piocel également, salut à vous deux.
Bonsoir.
Salut Benoît, salut Marion, salut à tous.
On rappelle l'événement de l'après-midi. Le 15 de France a gagné au Pays de Galles. Victoire des Français 45 à 24, un succès bonifié. Vous aurez toutes les réactions en direct depuis Cardiff grâce à Wilfried Templier et Winnie Claret. Mais on suivra également le football, la suite de la 25e journée de Ligue 1. C'est la mi-temps à Lille. Lille est menée 2 à 0 par le Stade Rennais. Et on rappelle les résultats de la journée de l'après-midi. Deux partout entre le PSG et Reims. Victoire de Monaco à Strasbourg 1-0. 1-0 pour Le Havre face à Toulouse et 1-0 pour Metz contre Clermont. Et puis on a un autre direct qui va démarrer d'ici quelques secondes. C'est le MotoGP, la reprise de la saison et le premier Grand Prix au Qatar. C'est parti pour l'Intégral Sport. Bon, est-ce que vous voulez dire un mot déjà, tous les deux, sur la première période qu'on a suivie entre Lille et le Stade Rennais? C'était un match assez difficile à pronostiquer au coup d'envoi. On se demandait ce que ça allait donner. Lille, qui évidemment sort d'une semaine européenne, le Stade Rennais qui est plutôt en forme actuellement. Seb, on l'a suivi ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette première période? Est-ce que tu étais surpris de voir Rennes mener 2-0 comme ça?
Bah déjà le premier but hein, très 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 rapide de Ludovic Blas, forcément ça met pas dans les meilleures dispositions les Lillois. Bien sûr qu'il y a le match en semaine. Alors même si ça a été un match assez facilement gagné, bien géré avec des joueurs qui sont sortis rapidement par Paulo Fonseca, bon tu sais qu'il y a quand même le voyage, donc tu peux te dire aussi au démarrage du match peut-être qu'il manquait quelque chose. Et puis surtout j'ai trouvé les Rennais très très bien en place, bien organisés au milieu de terrain où on sait que les circuits de passe de Paulo Fonseca c'est un petit peu sa marque de fabrique. On a quasiment pas vu au début du match Bentaleb, Angel Gomez, et puis au fur et à mesure on l'a vu sur les 10 dernières minutes, Lille s'est réveillé, aurait pu revenir à 2-1, mais ça reste quand même. Moi, je pense que ça reste quand même ouvert sur le match.
On attend de voir le début de seconde période. Marion, je te demande ton avis dans un instant. Juste le direct qui va démarrer parce que c'est la reprise de la saison en MotoGP. On retrouve d'ailleurs Paul Lafitte qui va nous commenter cette saison. Salut Paul.
Salut Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Un faux départ,
ouais.
Benoît.
C'est problème assez rare sur la grille de départ. Hein.
Oui, effectivement, drapeau jaune pour Raoul Fernandez qui a vraisemblablement calé sur cette grille de départ alors que les 22 pilotes s'étaient immobilisés après le tour de chauffe. Donc peut-être, Benoît, un restart dans quelques instants, l'occasion de tourner, de revenir évidemment pour cette présentation.
Bon, Marion, tu as le temps de nous donner ton analyse justement de la première période. Les Rennais qui mènent 2-0, qu'est-ce que tu en as pensé alors?
Bon, ils devaient se reprendre, les Rennais, parce que la semaine dernière, ils ont fait un match difficile. Voire catastrophique contre l'Orient, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a 15 jours, ils ont été un peu pris de court avec ce match nul contre le PSG. Donc, il y a urgence quand même en Ligue 1 pour être européen. Je sais que le but quand même, c'est pourquoi pas être en Ligue Europa, voire même Rennes a quand même envie un jour d'être en Ligue des Champions. Donc, il y a quand même cette course et donc je suis pas du tout étonnée. Un petit coup de chapeau pour Ludovic Blas parce que on a un petit peu critiqué le joueur, on a dit que est-ce qu'il trouvait vraiment sa place ou pas, et je trouve qu'il la trouve à Rennes. Et puis voilà, je pense que effectivement on a vu la semaine dernière un Rennes qui a eu beaucoup de difficultés, donc c'était urgent.
Ouais, l'importance de ce match au classement, tu le disais, parce que Lille est cinquième pour l'instant de Ligue 1.
Oui.
Et Rennes, avec cette victoire provisoire, est septième, mais revient à 2 points de le premier club qualifié pour la Coupe d'Europe, c'est Nice, et surtout revient à 3 points de Lille, qui est dans le top 5.
Ouais, c'est hyper serré.
Ouais, c'est serré. Et c'est une équipe très, très plaisante à regarder jouer, Rennes, qui se projette bien vers l'avant, il y a eu peu de déchets techniques, j'ai trouvé, durant cette première période. Donc, c'est un match plutôt agréable à regarder.
Ouais, on retrouvera Jean Bommel dans un instant pour la seconde période. Qu'est-ce qui se passe alors, Paul Lafitte, sur la grille de départ du Grand Prix MotoGP du Qatar? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations?
Vraisemblablement, Benoît, la course va repartir dans moins de 5 minutes. C'est bien Raoul Fernandez sur son Aprilia satellite qui a connu un problème alors que les pilotes allaient débuter ce premier Grand Prix de la saison. Vous rappelez rapidement que, sans surprise, c'est Jorge Martin qui avait bien claqué la pole position hier, qui a remporté la course sprint, lui le vice-champion du monde en titre, qui va donc s'élancer pour ses 22 tours ici à Losail. Premier Grand Prix de la saison disputé de nuit, bien évidemment, Benoît. Il y aura au total 21 Grands Prix cette saison. et le focus sera fait le 12 mai prochain pour le Grand Prix de France. Mais c'est vrai qu'on va s'intéresser cette année à la bagarre entre Jorge Martin et le double champion du monde en titre Pecco Bagnaia, et puis nos petits Français Benoît qui ont eu du mal hein, lors de cette séance de qualification. 13e place pour Johan Zarco à 8 dixièmes de Jorge Martin, et Fabio Quartararo sur Sayama est bien plus loin, 16e à 1 seconde et 2 dixièmes. On peut s'attendre à voir les Français évidemment souffrir. Le départ ce sera Benoît dans un petit peu moins de 4 minutes ici donc sur ce magnifique tracé de l'Ossaye.
Et ben on y reviendra, on a le temps de dire un mot sur le choc en Angleterre hein, parce qu'on suit ce match, c'est la course au titre également en Premier League, Liverpool Manchester City. On est un peu déjà nostalgique, le dernier duel en tout cas en Premier League entre Jurgen Klopp et Pep Guardiola, un partout désormais entre les Reds et les joueurs de Manchester City. C'est City qui avait ouvert le score, égalisation de Liverpool, McAllister sur son penalty. Il n'est pas terminé ce match, on va garder un œil dessus parce que là c'est peut-être le titre qui se joue. Il y a Arsenal qui est dans la danse aussi Seb, mais là ça va être passionnant à suivre aussi jusqu'à la fin.
Ouais, c'est clair. De toute façon, ça fait toujours du bien quand City ne domine pas complètement le championnat. Donc, on sait qu'en général, ils ont du mal à démarrer leur saison. Mais là, le fait qu'il y ait Arsenal en plus dans la course, forcément, c'est, on peut aussi compter Aston Villa qui fait une saison incroyable, mais qui est quand même décroché avec leur défaite du jour. Mais, malgré les absences à Liverpool, on assiste quand même à un bon match.
C'est vrai. Marion, tu veux dire un truc?
Bon, très rapidement, oui, la supériorité du football anglais, je suis un peu en avance, mais c'est sûr que l'Euro se profile et moi, j'ai très très peur de l'Angleterre parce que je trouve que ce qui est proposé par City, par Liverpool, même à moindre niveau par Arsenal et encore moins par Manchester United, il y a toujours des Rashford à Manchester United et puis City, des Foden, des Walker et moi, ça m'impressionne beaucoup. Donc voilà.
Mais on a le temps d'y penser,
mais en tout cas sur City, je pense que sur ce match, je ne serais pas étonné que City effectivement finisse premier du championnat.
Ouais, en tout cas, pour l'instant, je vais vous rappeler le classement de la Première Ligue en cours. Manchester City donc qui est toujours derrière Liverpool et derrière Arsenal. Hein, 64 points pour les Gunners, 64 également pour Liverpool et troisième Manchester City. On dira un mot également des matchs de l'après-midi parce qu'il y a eu des matchs qui se sont déroulés à 15h. L'information principale, on rappelle la victoire du 15 de France.
Beaucoup de buts.
Égal 45 à 24. Il y a eu très peu de buts. Finalement, ça tombait bien qu'il y ait un match du 15 de France en même temps que les matchs de 15h de Ligue 1. Mais la très belle opération tout de même pour l'AS Monaco. Cette victoire 1-0 à Strasbourg. Monaco revient à un point du Stade Brestois. Monaco 3e, mais plus que jamais à l'affût de la 2e place.
Là, il y a une vraie bataille aussi, Benoît, aussi, quelque
oui, c'est
part.
Logique, bien sûr.
Pas de Coupe d'Europe, oui, quand même un effectif, quand tu regardes même les joueurs qui sont rentrés, et ben, finalement, qu'on fait la différence à l'image du but de Ben Seguir, ils sont à leur place. C'est plus Brest, finalement, qui n'est pas à leur place, même si ils l'ont mérité. Mais c'est loin d'être terminé, parce que quand on voit vraiment le classement, les matchs qui restent à jouer, on peut pas dire, à part le Paris Saint-Germain, qui va jouer la Ligue des Champions.
Alors. C'est sans briller, effectivement, à Monaco, mais. Ouais. C'était important aujourd'hui.
Bah oui, il fallait gagner. Et c'est ce que les Monégasques ont fait. En tout cas, ça se resserre dans le haut du classement. C'est assez dingue ce à quoi on assiste en MotoGP. Là, on vient de voir un pilote courir vers sa machine de remplacement, Paul Laffite. C'est fou, j'avais jamais vu ça. Il a tapé un sprint dans les stands pour aller chercher une moto qui fonctionne.
Ouais, effectivement, Raoul Fernandez qui a donc sprinté pour aller récupérer sa deuxième moto, hein, parce que ses ingénieurs n'ont pas réussi à redémarrer sa moto avec laquelle il avait donc effectué la séance de qualification. On est donc reparti pour un tour de formation. Et évidemment, Benoît, il n'y aura plus 22 tours à couvrir, mais bien 21 tours, okay. Un tour en moins. Donc le départ, ce sera dans pile poil une minute ici à l'Ossaye.
Et on sera là, on a le temps d'aller faire un coucou à Jean Baumel qui est au stade Pierre Mauroy au commentaire de ce Lille-Rennes. Salut Djibo.
Salut Benoît, salut Marion, salut Seb.
Salut Djibo.
Bon, quelle est ton analyse à toi sur cette première période? Alors, t'as été cueilli à froid mon petit pote.
Eh ben écoute, je pense que la fête d'Eden Hazard a peut-être trotté dans l'esprit des joueurs lillois. Puisque il a fêté l'arrêt de sa carrière et forcément il a été formé à Lille et il y a eu pas mal de choses aujourd'hui. Et alors je ne veux pas dire que c'est ça, hein. Mais il y a vraiment une grosse fête avec les anciens, avec les Rudy Garcia, enfin beaucoup de monde. Et ils ont été cueillis à froid, hein, but dès la première minute, même pas. Et après, 20 minutes plus tard, le deuxième. Donc on sent dans le jeu que les Rennais sont plus directs, plus rapides. Alors après, dans le dernier quart d'heure, les Lillois sont un peu réveillés avec deux occasions pour notamment Jonathan David qui a trouvé le poteau, alors que le jeu là vient de reprendre à l'instant, donc 2-0 pour les Rennais.
T'as joué Djibo ou pas?
Je pense que c'est le buffet qui a tué Djibo là. Ah. Et arrivé en courant, là c'est dur de récupérer.
C'est un peu vrai. J'ai couru parce qu'en fait, je voyais les Lillois.
T'as mangé, coquin.
Pardon?
T'as couru et t'as mangé, coquin.
Ouais, non, je mange un petit truc, mais je vois que j'ai accéléré dans les escaliers, ce qui n'était pas terrible. Tu vois.
C'était meilleur qu'à Graz ou pas?
Ah bah oui.
Largement.
Bon, c'est reparti en tout cas début de seconde période.
Oui, oui, avec les Lillois qui ont lancé, donc pas de changement hein, de part et d'autre. Mais voilà, ce qui est important de savoir aussi, c'est que Lille n'a perdu qu'une seule fois à domicile depuis le début de saison, c'était contre Reims, donc ça remonte au 26 septembre dernier. Et que là, Rennes a un super coup à jouer parce que dans ce jeu-là, dans ce match-là, si Lille gagne, ça peut anéantir presque Rennes pour viser peut-être une place en Ligue des Champions. L'Europe, ça sera toujours dans les tuyaux. Mais là, ils font un joli coup, hein, les joueurs de Stéphane, parce que voilà, gagner à Lille, c'est pas une simple affaire, prendre des points. Et surtout, c'est de se relancer dans la course à l'Europe. Et ça oui, c'est hyper important. On va voir si Lille est capable de réagir dans le premier quart d'heure. Il faut réduire l'écart s'il veut revenir dans cette partie.
Ils l'ont fait déjà un petit peu dans les 10 dernières minutes. Hein. Ils auraient presque mérité revenir à 2-1. Puis c'est vrai qu'en général,
avec un centre à venir voilà, qui est capté par.
Moment important, premier Grand Prix MotoGP de la saison, pas mal d'histoires à raconter, le changement de moto de Marc Marquez, des pilotes français, ça vient de partir à l'instant, Paul Laffitte.
Et c'est parti avec le all-shot, le meilleur départ pour l'auteur de la pole position, Jorge Martin, qui va devancer vraiment sur un fil, Brad Binder, la troisième position pour Pecco Bagnaia, et Enea Bastianini est en quatrième position, le coéquipier de l'Italien, et il fait l'intérieur déjà, Pecco Bagnaia, au nez à la barre de Brad Binder, c'est très serré entre les trois premiers pilotes, et ils ont failli se frotter carénage contre carénage, on rappellera Benoît que les Français eh bien, se sont élancés eh bien, en 13e position pour Johan Zarco et en 16e position pour Fabio Quartararo, le double champion du monde en titre Pecco Bagnaia sur sa Ducati officielle eh bien, qui passe Jorge Martin. Il lui aura fallu à peine 3 virages pour prendre les commandes de ce premier Grand Prix de la saison, lui qui avait terminé hier 5e de la course sprint. Évidemment, Benoît, tu le précisais, tous les regards sont aujourd'hui tournés sur Marc Marquez, l'octuple champion du monde qui a quitté le giron Honda officiel pour aller prendre le guidon de cette Ducati du team Gresini. Et hier, il s'est plutôt pas mal comporté. Hein. Marc Marquez en terminant 5e de la course sprint. Le classement donc, Pecco Bagnaia devant Jorge Martin. La 3e position pour Brad Binder. Marc Marquez est en 4e position devant Enea Bastianini. Les Français sont bien plus loin. 14e position pour Johan Zarco. Et c'est un petit peu mieux pour Fabio Quartararo qui est 11e donc à l'issue quasiment de ce premier tour de course ici à Losail au Qatar.
18h13, vous écoutez RMC, l'intégral sport avec Marion Hidalgo, avec Sébastien Piocelle, avec Jean Baumel au stade Pierre-Mauroy de Lille. Le temps de score, Djibo, s'il te plaît.
La 48e minute, 2-0 pour Rennes. Les buteurs, c'est Blas dès la première minute et Kalimuendo, 19e.
On surveille toujours ce qui se passe en Angleterre, hein, partout entre Liverpool et Manchester City après 70 minutes. Dans un instant, on revient la suite du Grand Prix MotoGP, la suite de la Ligue 1. Et on débriefera également ce match du Paris Saint-Germain, le score final de partout entre le PSG et Reims. Encore un match que n'a pas démarré Kylian Mbappé, on en parlera. Et pourquoi pas avec vous d'ailleurs, jusqu'à 19h sur RMC l'Intégral Sport, ne bougez pas.
RMC Intégral Sport,
Benoît Boutron.
18h15 sur RMC, c'est l'Intégral Sport jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Marion Hidalgo est là, Sébastien Piocelle également. On a deux directs avec la suite de la 25e journée de Ligue 1, Lille face à Rennes, et le premier Grand Prix MotoGP de la saison qui se déroule pour l'instant au Qatar. On va retourner tout de suite au stade Pierre-Mauroy de Lille. Jean Baumel, Lille-Rennes, vas-y.
Ouais, avec un Doué qui déborde dans la salle de réparation et parade, et il aurait pu se faire surprendre. Parade de Lucas Chevalier, ça rebondit dans les pieds de Diakité. Ça aurait pu faire, comme on dit en Belgique, un autogol. Hein. J'en profite parce que Eden Hazard était là et qu'il est belge.
Et il aurait même pu avancer encore un peu, hein, Gazoué, là, sur l'action.
Jibo, faut nous le dire avec l'accent belge, du coup.
Bah, un autogol.
Là, ça prend tout son sens.
Jibo, tu sais, comme moi, j'étais à la Pay TV. Il paraît que tu as fait le dog.
Ah oui, oui, ah, oui, oui, ça, oui, oui. C'est ça, sur une demande.
Pay TV, sur les chaînes télé d'RMC Sport.
Ouais, voilà. J'allais dire
sur
là.
Sur une demande de Jérôme. Bon, c'était collégial, la demande, en fait.
D'accord.
Avec Jean-Louis aussi. Mais bon, écoute, là, j'ai pas eu l'occasion de faire le dog parce que quand on fait le dog, il faut qu'il y ait un but lillois. Sinon, ça ne marche pas.
Et ouais.
Hein? Malgré certains qui me font faire la licorne en dehors du stade de la licorne.
Oui,
hein,
pardon.
Tu vois de qui je parle ?
Oui, pardon.
Bon, attention, les Rennais à l'attaque avec Bourigeaud, le ballon contré, ça sera un corner. Les transitions, elles sont beaucoup plus rapides de la part des Rennais, hein, pour être un peu sérieux dans ce début de seconde période, parce que on pensait Lille revenu avec de bonnes intentions. C'est vrai que pendant 3-4 minutes, on a vu des choses intéressantes. Ils s'approchaient bien de la surface et il y avait des tentatives de centre, certes qui ne trouvaient pas preneur, mais c'était encourageant. Et là, sur les contre-attaques, ils sont friables les joueurs lillois et la défense. On va suivre le corner, le deuxième dans cette rencontre, et les deux d'ailleurs en deuxième période. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui va certainement être sifflé, puisque vous savez qu'il a été formé chez le voisin Lensois. C'est parti au deuxième poteau avec Théâtre. Ouais, c'est trop fuyant, c'est trop haut, et Théâtre va le récupérer mais très très loin. Il sera même obligé, je pense même, de donner vers son gardien. Voilà qui est fait, Steve Mandanda qui est sorti de sa surface et qui a balancé loin devant pour peut-être trouver un partenaire. Alors ça sera Ismaili qui va dégager. Voilà, Lille qui doit retrouver le fil conducteur de la rencontre, parce que c'est pas le bon moment de perdre, parce qu'il y a encore un match, certes pas trop compliqué contre Champ-de-Grâce jeudi soir, mais il faudra quand même aligner les joueurs de la part de Fonseca. Et à 13h dimanche prochain, il y a un certain Brest-Lille. Donc attention à une semaine qui pourrait être pas décisive, mais très compliquée en termes de classement.
Complètement, si jamais ils étaient amenés à perdre.
Il va y aller tout seul peut-être. Il est retenu. Oui, carton jaune pour qui?
Ouh, Yoro.
Alors c'est pour Diakité, je pense.
Non, Yoro, non.
Je le vois en direction de Diakité.
Alors c'est la première.
Alors on va revoir en tout cas l'image avec l'accélération de Goury. Goury qui accélère.
Et en fait ça fait rire les Rennais parce que il l'empêche d'aller au but.
Pour moi c'est Yoro le premier fautif.
Je pense aussi. Mais... C'est Yoro qui fait la faute.
Ah, il l'a mis complètement dans le vent sur cette action.
C'est et pourtant il l'a mis en direction de Diakité, mais pour moi t'as raison. C'est Yoro qui est sanctionné. Bien vu.
Juste un mot, Marion et Seb, on est frustrés quand même par cette équipe lilloise qui est totalement inconstante. À chaque fois on voit l'effectif, on se dit il y a moyen de faire de bonnes choses. En Coupe d'Europe, ça se passe plutôt bien. Ils ont fait tourner en plus, donc on s'est dit ils sont aussi concentrés sur le championnat et cette réception de Rennes. Et souvent on est déçus. Marion, avec ton micro, Marion.
Il l'était, excusez-moi. Je voudrais pas te décevoir, hein, mais c'est un peu le cas de toutes les équipes de Ligue 1. Hein. Ouais. Et c'est à l'image également de Rennes, qui s'est fait sortir quand même par le Milan, même s'ils ont montré des bonnes choses, qui ensuite ont eu des difficultés contre Paris puis contre Lorient, et qui ce soir, enfin, retrouve un peu de confiance. Et c'est la même chose pour Lille. C'est ça, je pense, vraiment la particularité de la Ligue 1. C'est la difficulté à être constant. Et on le voit ce soir pour Lille, avec, même s'il y a effectivement des joueurs qui vont sans doute partir la saison prochaine, le petit Yoro par exemple qui impressionne l'Europe, il y a toujours des difficultés à être constant.
Ouais, Seb, tu les as commentés jeudi d'ailleurs.
Ouais, alors en plus de ça, il y a le retour de Ben Taleb qui était suspendu, donc très bien remplacé par le jeune Boadi, hein, ouais. qui a été passeur décisif. Et c'est vrai que on était avec Gibo, ils ont fait un match de la première à la 94e minute avec une maîtrise, 3-0, ils n'ont pas été mis en difficulté. Et c'est vrai que là, sur ce genre de match-là, où certes, tu as joué il y a 3 jours, mais bon, tu as quand même des joueurs capables de faire des différences. On ne les reconnaît pas dans les circuits de passe, mais après aussi, parce que Rennes joue bien, franchement, ils sont bien en place au milieu. Ouais. Et dès l'instant où tu laisses un peu de...
Bonsoir, Bourigeau, le coup franc, ça passe au-dessus. Tu peux y aller, ça.
Ah, merci.
Et puis, il y a d'autres possibilités à Rennes. Ils sont plusieurs buteurs. Bourigeau, Kalimuendo, Guiri, c'est la troisième meilleure attaque de Ligue 1. Lille s'est beaucoup concentré sur Jonathan David. Donc, quand c'est un petit peu moins bien, c'est plus difficile, évidemment, d'aller au but. Mais
C'est vrai qu'il rate beaucoup d'occasions aussi. Hein. Il marque pas mal. Hein. C'est vrai que c'est le deuxième meilleur buteur. Mais
c'est vrai.
Il a raté deux occasions, deux face à face. On l'a vu. Hein, c'est même s'il en a mis, il a mis un doublé. Hein. Mais en fin de première mi-temps, il a deux occasions. Alors il y a le poteau, certes. Hein, voilà, il y a un manque de réussite. Mais juste avant, il frappe. Mais c'est le gardien Steve Mandanda qui détourne le ballon. Donc
mais il a beaucoup d'occasions. Là, il est fautif là. Sur le but encaissé par Lille. Le deuxième but, c'est lui sur la remise qui.
Alisson, tu mets un ballon, un peu une patate chaude et le contrôle mal. Ça profite au Rennais, t'as raison, c'est comme ça que c'est venu.
Et c'est pour cette raison-là aussi, sans doute, que Rennes a entre guillemets, plus de possibilités. Ils ne sont pas esclaves, entre guillemets, d'un attaquant.
Ouais, il y a moins de dépendance à un numéro 2.
Attaquant.
Il va y avoir des changements, d'ailleurs, Djibo. Je crois qu'Arthur Théâtre s'est blessé.
Ouais, on surveillait ça de près. Il s'est mis un petit peu à l'écart et il est revenu et apparemment, c'est trop compliqué. Alors. On a déjà préparé, on avait anticipé.
Ça sera la soirée avec Eden Hazard.
Ça sera Bélocian qui va lancer.
Ce soir, il reste sur l'île. Et...
Bah, c'est possible, ils sont checkés avant, t'as raison. Voilà. Et Berg, je vais
en parler. Bravo, bien joué.
Ouais, exactement.
Il n'y a plus de Belges ailleurs du côté lillois. Il y avait plein de Belges, mais non.
Allez, 2-0 pour l'instant pour Rennes à Lille. 56 minutes de jeu. Un petit détour par le MotoGP. Oh là, ça fait peur. Le Qatar, Paul Lafitte, ça roule vite apparemment.
Ouais, Benoît, ça roule très vite. Les Ducati ont été flashés à 343 km/h.
Ah oui.
Au bout de la ligne droite qui fait quand même un petit peu plus d'un kilomètre. C'est vous dire si la poignée est dans le coin, hein, comme on dit dans le jargon de la moto. Après 8 tours de couvert, le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia, est en tête devant Jorge Martin, la troisième position pour Brad Binder. On s'intéresse à un magnifique duel qui oppose Marc Marquez, on en parlait, hein, l'octuple champion du monde, à la nouvelle pépite de la MotoGP, Pedro da Costa, champion du monde de Moto3 en 2021, champion du monde de Moto2 la saison dernière, et qui, au guidon de sa gaz-gaz, est en train, eh bien, de mettre la pression sur Marc Marquez pour la quatrième position. Superbe duel. Et puis, nos Français sont un petit peu plus loin. Le top 10 pour Fabio Quartararo, qui est dixième sur sa Yamaha. C'est un petit peu plus difficile pour Joan Zarco, hein, au guidon de sa Honda du team LCR, en 14e position. Joan Zarco en 13e position, puisqu'il vient de passer Alex Rins. Mais c'est vrai que les Ducati vont dominer, Benoît, ce n'est pas une surprise, hein. Pour l'instant, donc, avantage à Bagnaia devant Martin, la troisième position pour Brad Binder.
18h22 sur RMC, l'Intégral Sport. On rappelle qu'il y a toujours 2-0 pour Rennes à Lille en Angleterre, toujours un partout entre Liverpool et Manchester City. On rappelle l'info de l'après-midi, la victoire du 15 de France au Pays de Galles, la quatrième journée du 6 Nations, victoire 45-24. Les réactions dans un instant, et puis la suite de ce match entre Lille et Rennes. Et puis tiens, un résultat de cyclisme qui vient de tomber, c'est Jonas Vingegaard qui remporte le Tirreno Adriatico. C'est l'une des courses de classique de ce début de saison, une course à étapes. On rappelle la victoire de Matteo Jorgensen sur Paris-Nice et la victoire de la dernière étape pour la pépite Remco Evenepoel. A tout de suite sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 19h.
RMC Intégral Sport,
Benoît Boutron.
18h27 sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 19h avec Sébastien Piocelle et Marion Hédalo. On suit ce match de la 25e journée de Ligue 1. Lille-Rennes, il y a eu deux grosses occasions pour les Lillois.
Exactement. Tout d'abord avec Yazidche bien lancé là sur le côté gauche, frappe, bon là il est un petit peu fermé, mais frappe détournée par Steve Andanda. Deux minutes plus tard, sur un coup franc de Zegrova, la tête de Diakité, encore une belle parade du gardien du Stade Rennais. On est à la 62e, toujours 2-0 pour les Rennais. Il y a eu trois changements du côté lillois. Goodmanson, ouais. Kabela, Yazidche qui sont entrés. Les sorties d'Ismaili, Nabil Bentaleb un peu moins bien depuis qu'il est parti à la CAN, hein, côté lillois. Et Haraldsson, bah, qui commençait à être un petit peu titulaire, Seb, mais j'ai l'impression que, bah, c'est peut-être un trop gros match pour lui. J'ai l'impression que...
Non, mais après, quand t'arrives à l'heure de jeu et que ça peut arriver de pas être bien aussi dans un match, et donc tu t'attends pas, comme certains coachs, les cinq dernières minutes, tu changes là les choix offensifs. On sait pas s'ils seront payants pour Fonseca.
Ouais.
Mais le, voilà.
Le, temps, il a pas vraiment le choix. Il est obligé de tenter quelque chose.
Ouais, mais t'as des entraîneurs qui vont faire du poste pour poste avec les mêmes profils. Là, quelque part, il met Yagicé, c'est quasiment le deuxième attaquant avec, avec Jonathan David, avec Angel Gomez un peu plus bas. Et c'est vrai que, bon, Haraldsson, qui est quand même beaucoup mieux qu'en début de saison, bah, Kabela, il revient, il a de l'expérience, il est capable aussi, il le montre à chaque fois quand il rentre dans un match, capable de faire des différences. Après, on ne sait pas si ça fonctionnera. Ce fameux troisième but dans le match, on va voir qui va le marquer, s'il y en a un qui marque.
Là, ce sont les Lillois avec Zegrova, les Lillois qui attaquent vers le COP DVE, hein, les ultra Lillois, les Doc Virage Est. Et c'est vrai que généralement, ça les booste, hein, ça ils poussent énormément, parce que là, en plus, ils doivent revenir assez vite pour se relancer dans la partie. On est à la 63e. Il faut, pour les Lillois, avec Lundmundsson, peut-être un centre contré. C'est récupéré assez facilement, okay, là, par Steve Mandanda. 4 minutes bientôt, 2-0 pour le Stade Rennais.
Mario, faut pas tarder, hein, pour réduire l'écart là, sinon ça va être une victoire tranquille du Stade Rennais a priori.
J'en ai peur pour le LOSC.
Bon, petit détour par la moto, où en est-on? Il reste 12 tours à parcourir, le premier Grand Prix de la saison au Qatar, Paul Lafitte.
Et oui, Benoît est le patron qui tape du poing sur la table, évidemment, hein, Pecco Bagnaia, le double champion du monde, qui a désormais une seconde d'avance sur Jorge Martin, la troisième position pour Brad Binder, mais c'est très serré dans ce paquet là, avec Marc Marquez qui est en quatrième position devant Pedro Acosta. On retrouve également un petit peu plus loin Enea Bastani, le coéquipier de Pecco Bagnaia, puis nos Français sont un petit peu plus loin. Fabio Quartararo s'est fait passer par Maverick Vinales, il occupe le 11e rang donc de cette course. Joan Zarco est toujours bien calé en 13e position. L'important pour Joan Zarco, il le disait sur la grille de départ, c'est de marquer des points avec cette nouvelle équipe, hein, cette Honda du team LCR. Il est donc pour l'instant dans les clous, puisque les 15 premiers marqueront des points à l'issue de cette course. 12 tours à couvrir donc, et Pecco Bagnaia, en s'imposant, il pourrait signer sa 19e victoire en MotoGP et prendre les rênes bien de ce championnat du monde, puisqu'hier lors de la course sprint, on rappelle que c'est Jorge Martin qui s'était imposé. Mais pour l'instant, le leadership donc de l'Italien sur sa Ducati officielle, une seconde d'avance sur Jorge Martin, la troisième position pour Brad Binder. Nos Français sont 11e pour Fabio Quartararo et 13e pour Joan Zarco.
Et nouvelle occasion lilloise, Jean Baumel.
Et ouais, mais encore une fois, ça ne veut pas sourire à Yazid Che, hein. C'est passé quand même une tête bien à côté, mais il s'en voulait de pas avoir mieux redressé la trajectoire du ballon. Les occasions se multiplient depuis 4-5 minutes, mais ça ne veut pas rentrer, hein. C'est un peu l'image de la fin de première période. Il y a eu ce poteau et des parades de Steve Mandanda, d'ailleurs, qui fait un très bon match, l'ancien Marseillais, avec Yazid Che qui bute et la bonne récupération. Bon, il n'y a pas de faux du tout avec Bourigeaud. Attention à la contre-attaque avec Kalimuendo. Kalimuendo qui écarte vers Guri. Ballon pas très, très bien donné. Il va devoir donné en retrait, voilà qui est fait vers Doué. Il n'y a eu qu'un changement du côté rennais pour blessure, hein. Bélossian qui a remplacé Théat. 66 minutes de jeu, les buteurs rennais, Blas à la première minute et Kalimuendo à la 19e.
18h30 sur RMC, rappelons que le 15 de France est allé s'imposer au Pays de Galles, victoire 45-24, c'était à Cardiff, c'était la clôture de la 4e journée du tour de destination. Un grand débrief arrive dans Bartoli Time à partir de 19h et dès qu'on a des réactions en provenance du Pays de Galles, on vous les diffuse en direct sur RMC. Marion, tu voulais revenir sur ce qui s'est passé en début d'après-midi en Ligue 1, justement. Le PSG jouait à 13h face à Reims, score final 2-2, c'était déjà le score à la mi-temps. L'événement de cette rencontre, c'était Mbappé qui a de nouveau démarré sur le banc. Je vous donne juste quelques statistiques de Kylian Mbappé. Sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, il a joué 3 fois 45 minutes ou moins. Ça fait une éternité que ça ne lui était pas arrivé. En tout cas, il y a de la gestion de Mbappé. Luis Enrique fidèle à sa logique, finalement.
Oui, et moi je trouve que c'est très intelligent de la part du coach parisien, parce que il se laisse des possibilités, des tests, de tester finalement les joueurs qui lui restent. Il sait que Kylian va partir à la fin de la saison, et moi je trouve que Mbappé l'ayant dit finalement assez tôt, ça laisse des possibilités à Enrique de réfléchir, de penser. Moi je sais qu'on imagine toujours que ce sont des punitions comme ça que les entraîneurs donnent. Moi je pense pas que ce soit une punition de la part d'Enrique. Je pense que au contraire, il est extrêmement pragmatique. Et puis j'en ai un petit peu marre aussi de ce pays en France où à chaque fois on me dit qu'il faut respecter l'institution et respecter ceci et respecter cela, et qu'enfin il y a un entraîneur qui pose un petit peu entre guillemets ses coronesses sur la table, et bien on dit ah ben non, mais là il va trop loin, etc., etc. Moi pour l'instant, ce que je vois, c'est une saison parfaite de la part de Luis Enrique. Et moi je regarde aussi un Paris Saint-Germain qui est en quart de finale de Ligue des Champions, Coupe de France, et qui en championnat voilà, fait le job.
En tête.
Exactement.
Seb, cette déclat d'ailleurs de Luis Enrique.
Pas du tout d'accord.
Ouais, je sais. Non. Je sais, mais.
Non, d'accord.
T'as vu la déclat de Luis Enrique, hein. Je lui souhaite le meilleur, comme si Kylian était déjà
pas. Ouais, bah, on est juste début mars, en fait. Ouais, donc, et en même temps, ce que tu dis au niveau des résultats, c'est clair. Ils se sont donné les moyens, justement, de pouvoir gérer cette fin de saison en championnat. Après, en Ligue des Champions, on va voir un petit peu le tirage des quarts de finale, parce que, avec tout le respect que j'ai pour la Real Sociedad, bon, c'était quand même très moyen sur le match aller-retour. Et après, juste pour revenir sur le cas Mbappé, parce que Mbappé, encore une fois, même si on dit il n'y a personne qui est au-dessus de l'institution, Mbappé, ça reste Mbappé. Et je pense que c'est un joueur qu'on ne doit pas gérer de la même manière que les autres. Et qu'encore une fois, tu parles de Coronès, oui et non, parce qu'à l'arrivée, sur les matchs hyper importants, il est toujours aligné. Et l'année prochaine, il aura des matchs importants, mais il ne sera plus là. Donc oui,
il y aura quelqu'un d'autre quand même. Il y aura un Osimhen à la hauteur de Martinez, un mec dans ce genre quand même.
Peut-être, mais en tout cas, je trouve que c'est pas logique la manière dont il le traite, et notamment on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que moi ça me dérange pas trop à la rigueur qu'il soit remplaçant en début de match, ouais, parce qu'il fait des essais. Mais le dernier match où lui est sorti à la mi-temps, parce que soi-disant il n'était pas à Monaco, soi-disant il n'était pas bon, quand tu vois certains joueurs aujourd'hui, ouais, comme Soler, comme Barcola, qui était passé, Kangindi, qui était passé complètement à côté de la mi-temps, eux aussi ils auraient pu être sanctionnés. Et j'ai l'impression qu'il aime ce rapport de force-là, notamment avec ses joueurs stars, et que ça lui donne un peu de crédit. Pour moi, il a un melon pas possible. Après, tactiquement, je reconnais que c'est quelqu'un qui essaye des choses, même si des fois, je trouve qu'il invente pas mal de trucs. Ça lui sourit pour le moment, mais en tout cas, ça change comme type d'entraîneur. C'est vrai qu'on lui laisse les rênes complètes au PSG. Ça change depuis des années. On verra si c'est la bonne solution ou pas.
Et puis, je pense aussi que le melon, c'est quand même très important pour un grand entraîneur, un grand manager. Moi, je trouve que quand on voit Guardiola, quand on voyait Mourinho, voilà, quand on voit même Klopp, tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas d'une grande, grande modestie. Et je pense que Enrique fait partie de ces grands managers qui ne travaillent pas dans l'humilité, mais effectivement dans un rapport de force assez viril qui peut effectivement en fatiguer certains.
Je ne pense pas qu'on puisse comparer Klopp et Enrique sur le management. Après, quand t'es au haut niveau, l'ego, t'es obligé d'en avoir. Sinon,
le club a quand même beaucoup d'ego.
Entre avoir de l'ego et ensuite avoir un management avec tes joueurs, avec ton vestiaire, à l'image d'un Carlo Ancelotti. Je remets pas en question la qualité de l'entraîneur de Luis Enrique.
On va rester chez les Latins, alors on va rester chez Simeone, on va rester chez Arteta, chez Guardiola, chez Mourinho, chez Enrique. Non, il appartient en tout cas à ces entraîneurs.
Là où on est tous d'accord, c'est que pour le moment ça marche et le PSG est toujours engagé dans les trois compétitions du début de saison avec cette demi-finale qui arrive.
Avec Mbappé qui a fait 80% du travail à chaque fois.
Quart de finale en Coupe de France ce match qui arrive, non, demi-finale en Coupe de France.
Quart de finale
face à Nice, c'est vrai. Il est là. Heureusement que Jimmy Brown, mon producteur, est là. On les voit déjà en demi, mais ils ne sont pas encore. Retour au live, retour à Lille. Lille face à Rennes. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire, Jean Bobel.
2-0 pour le Stade Rennais. Il reste 20 minutes. Et quand on regarde le match aller, ça faisait 2-0 pour Lille. Et bien, au Razon Park, et ça a fait 2-2. Mais bon, là, franchement.
Ah, tu te raccroches, Gibo.
Tu te donnes des raisons de croire. C'est assez touchant.
Non, mais bon. Il y a des discussions qui sont aussi en tribune de presse.
On se rassure comme on peut.
Parce qu'il ne se passe pas grand-chose, il faut être clair.
Comme on parlait de la Coupe de France, il y a un instant, Rennes étant Coupe de France, il devrait rencontrer où le PSG de Luis Enrique ou Nice.
Ils prennent leur marque, les Rennais, là, parce que la finale, c'est ici.
Ah oui, c'est vrai.
Exactement.
Juste pour revenir à Lille, ça serait un sacré coup d'arrêt là, perdre. Oui. Parce que, comme tu le disais, en cas de victoire, ils éliminaient quasiment Rennes. Et finalement, ils font une bonne saison. On a souvent dit Lille ces dernières années, à chaque fois qu'il fallait passer cette marche-là, il calait. Mais là, c'est vraiment un match un peu charnière.
Même si c'est le moment d'avoir des résultats. Prochain match, d'ailleurs, pour les Lillois. Ce sera à Brest en championnat. Parce
c'est à 13h, donc ce qui plaisait pas trop à Olivier Létang. Faut être honnête, le placement de ce match à 13h, c'est un peu moyen.
C'est sûr.
Avec le 3-0, Gibo, ça va. Avec le 3-0, normalement.
Oui, et puis après le match contre Stuttgart, on a vu Olivier Létang en interview. Je lui ai posé la question. Je dis le 3-0 fait que ça va permettre de tourner un peu. Et ça sera moins compliqué d'aller à Brest que s'il y avait 0-0 ou s'il fallait renverser un match. Donc là, c'est un peu plus confort que prévu.
Gibo, garde espoir. On revient dans un instant. La fin de match contre Lille et Rennes, on fera un point sur le MotoGP. Il reste 8 tours à parcourir au Grand Prix du Qatar. Première manche de la saison, Bagnaia est en tête devant Jorge Martin et les Français sont déjà en difficulté. On fera le point avec Paul Lafuite. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h39 sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 19h. Marion Hédalo et Sébastien Piocelle sont là parce que c'est la suite de la 25e journée de Ligue 1. Le temps, le score entre Lille et Rennes, s'il te plaît, Jean Bommel.
La 74e, 2-0 pour les Rennais face au LOSC au stade Pierre-Mont-Roi.
Je rappelle l'info de l'après-midi, le 15 de France s'est remis à l'endroit. Victoire au Pays de Galles, 45-24. C'est le quatrième match du 6 Nations. Fabien Galthié est en direct en conférence de presse.
Satisfait du résultat précédent, c'est clair. Et le tournoi, on n'a pas commencé comme on le souhaitait. Donc il y avait plusieurs pistes de travail. Il y avait bien sûr le contenu, continuer à travailler sur notre contenu et notre organisation. Et puis il y avait aussi trouver la fraîcheur physique, mais aussi la fraîcheur psychologique. Donc la semaine de repos, a contribué aussi. C'est notre septième. On est dans notre septième semaine de tournoi et souvent on arrive à avoir une bonne fraîcheur sur la fin du tournoi parce qu'on arrive à bien préparer les joueurs pour les formater sur ce niveau-là. Et ensuite il y a la fraîcheur aussi psychologique qui était importante. Donc c'est vrai qu'on a un peu modifié la méthode en fait. Plutôt sur le contenu, et c'est vrai que l'émulation, donc c'est l'occasion de parler de ceux qui ne sont pas rentrés sur la feuille de match, bien sûr, ceux qui sont repartis en club, aussi les joueurs supplémentaires, puisqu'on a travaillé sur deux équipes mixtes, et puis aussi les finisseurs qui ont été très bons aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a réussi à retrouver de l'allant, de la fraîcheur et aussi bon, ce dont je doute pas, mais le sujet c'était il fallait que maintenant on avance quoi. Les résultats de la veille c'était quelque chose quoi, de juin dernier ici avec les résultats de la veille, ça nous a rendu le challenge encore plus élevé. Et en fait, il a été relevé. Donc, je voudrais féliciter bien sûr les joueurs les 23 joueurs, les joueurs qui nous ont aidé à travailler. Et puis le staff qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer cette équipe.
Bon, on remercie Fabien Galthié. Il y aura un grand débrief dans Bartoli Time. Sinon, on y est jusqu'à 20h hein, si on écoute
toutes ces réponses.
En tout cas, c'est la bonne nouvelle de l'après-midi. La victoire 45-24 au Pays de Galles. Et on aura un crunch pour terminer samedi soir France-Angleterre en direct de Lyon avec toute la Dream Team. On va se régaler. Retour au direct. On va tout de même aller voir ce qui se passe en MotoGP. Grand Prix du Qatar, première manche de la saison. Paul Lafitte.
Et on est rentré dans les 5 derniers tours, Benoît, ici à Losail, et Pecco Bagnaia est toujours en tête avec une seconde d'avance sur Brad Binder, la troisième position pour l'auteur de la pole position, Jorge Martin. Marc Marquez est de nouveau quatrième et il précède son frère Alex Marquez qui lui précède Enea Bastianini et Petro Da Costa qui avait fait vraiment un superbe début de course, c'est en train de rétrograder la gestion des pneus. C'est un jeune pilote, hein, son premier Grand Prix en MotoGP, mais il prouve qu'il a le talent au guidon de sa gaz-gaz. Nos Français sont un petit peu plus loin, Benoît, puisque désormais Fabio Quartararo est en 12e position, la 14e position pour Johann Zarco. Sans surprise donc, les Ducati qui sont devant à suivre évidemment, mais Pecco Bagnaia devrait normalement s'imposer puisqu'il compte une seconde d'avance hein, sur Brad Binder et un petit peu plus de 2 secondes sur Jorge Martin.
Bon, j'ai cru que Jean Bommel avait une analyse moto à faire.
Non, c'était sur des petites boulettes de papier jetées par des jeunes supporters. Je trouve ça un peu hallucinant.
Oui, mais... sur Bourigeaud qui est formé à Lens.
C'était pas génial.
Et ben on y retourne du coup, vas-y Jean-Paul.
Alors toujours 2 à 0, il reste 13 minutes, changement côté lillois, Zegrova qui sort et l'entrée de Travis Dago, jeune joueur de 19 ans. Alors ça veut dire qu'on est quand même en pénurie au niveau offensif hein. Ilic qui est à peine arrivé, 10 minutes de
Caballero
jeu.
Caballero dans le groupe ou pas?
Oui. Il est sur le banc, mais je pense qu'il va pas prendre de risque hein, là sur vu qu'il a été opéré d'une pubalgie, il était pas mal embêté hein, le joueur d'origine portugaise, et voilà. Je pense qu'il veut le mettre dans le groupe mais tout doucettement. Peut-être qu'on verra jouer contre Schumgras. Voilà, c'est le genre de match qui pourrait faire du bien à Ivan Cavalheiro. Alors que le joueur a repris là, le ballon qui est contré par Rémi Cabella, ballon qui sort. Là, on sent des Lillois un peu émoussés et qui ont donné pas mal et avec un résultat qui n'a pas permis de renverser un petit peu la tendance de cette partie en réduisant l'écart.
Tu sais ce qui est frustrant, Jean Bommel, c'est qu'en cas de victoire, Lille pouvait revenir à seulement 2 points de Brest qui est deuxième. Donc là, il y avait un vrai coup à faire, repasser devant Lens, mettre la pression à Monaco et à Brest. Et là, on n'en prend pas du tout le chemin.
Après, sur ce match, il manque aussi ce but qu'ils ont eu l'opportunité. Ça aurait peut-être emballé un peu la rencontre. Là, de nouveau, on sent là que là, il y a plus de changement de rythme. À la rigueur, je dis pas qu'on est plus près du 3-0, mais bon, Rennes a des espaces aussi dans les transitions.
Ouais. Est-ce que, sincèrement, comme toi, tu as été joueur pro, Seb, toute la fête tout autour d'Eden Hazard, tout ce qu'on a fait toute l'après-midi, la présence, est-ce que ça peut parce que prendre un but aussi rapidement dans un match,
non,
est-ce que ça peut te contrarier ou te mettre la tête ailleurs? Alors,
franchement, j'y crois pas. Ils n'ont pas participé à la fête, les joueurs.
Ils n'ont pas de lien
avec lui direct. Ça fait un moment qu'il est parti de Lille, Eden Hazard.
Oui, non, mais il y a eu le coup d'envoi, il y a eu pas mal. Enfin, il y a eu tellement de choses.
Des coups d'envoi, un petit tif comme ça. Non, franchement, je pense pas.
Djibo, ça t'a peut-être déconcentré, toi, mais parce que toi, tu l'as connu à l'époque de Lille, mais les joueurs.
Mais moi, j'ai le droit d'être déconcentré. C'est vrai. Et j'avais vu avant à Luchin tout à l'heure, parce qu'il y a le terrain d'honneur qui s'appelle désormais.
Mario, qu'est-ce que t'en penses
de Eden Hazard?
Mais ça n'a pas de conséquences sur les joueurs.
Moi, je pense comme Sébastien. Maintenant, j'ai pas joué au niveau comme Sébastien Piocelle. Ça ne vous aura pas échappé, mes amis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'effectivement, à partir du moment où les joueurs n'y ont pas été, et c'est vrai que Eden Hazard a dû partir en quoi, 2011, 2012, je sais pas, il a été, voilà, je pense qu'il y a même une telle différence de génération.
Il y en a qui n'étaient pas
nés. Voilà, il y en a certains qui n'étaient pas nés. Enfin, nous, on était bien nés et on s'en souvient bien. Mais c'est vrai que, pour revenir au LOSC, est-ce que le fait peut-être de, alors c'est une question que je me pose. Est-ce que Fonseca est forcément l'homme de la situation pour un club? Oui, là c'est moi qui vais mettre une petite pièce dans la machine. Est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation pour un club qui ambitionne quand même un budget quand même conséquent en Ligue 1?
C'est savoir si Fonseca, si Lille est trop grand pour Fonseca ou inversement. Est-ce que peut-être que Lille n'est pas assez grand pour Fonseca? Pour moi, Fonseca,
ouais, je pense que c'est plutôt frais.
Voilà, il va aller.
Il a besoin de plus de moyens.
Voilà, je pense aussi.
Je pense quand même que J'ai pas un souvenir quand même. Alors c'est vrai qu'il est passé par des grands clubs, ça c'est une évidence, mais je sais pas s'il a laissé une trace tellement indélébile et tellement positive au point de dire ah oui, c'est génial, c'est génial. Moi je me demande si le LOSC ne mériterait pas plus de se concentrer sur des entraîneurs, ben, comme le fait l'OM en fait, qui a quand même très bien choisi ses entraîneurs ces 5 dernières années. On pourra dire ce qu'on voudra de Gassé à Villas-Boas, de Rudy Garcia.
Pas cette année, ils en ont,
non, pas Marcelino et pas Gattuso, mais enfin je me demande. Alors, je suis en train de partir sur un débat sur l'OM, c'est peut-être pas le moment. Mais en tout cas, de Villas-Boas à Rudy Garcia, voilà, je me demande si un grand coach français ne redonnerait pas un petit coup.
Je réponds de rapidement.
C'est une équipe jeune,
pour moi,
le LOSC.
Paulo Fonseca, voilà. C'est l'un des entraîneurs du championnat de France qui est le plus marquant au niveau de ses équipes.
Et donc,
on en a parlé un peu jeudi à Gibault,
oui.
Avec le président. Bon, il nous a rien dit de plus que ça, mais c'est vrai qu'il est en fin de contrat. Il est hyper sollicité. C'est sur le travail qu'il fait, notamment, et il est capable aussi de lancer les jeunes. Et pour moi aujourd'hui, les moyens.
À l'image d'un garçon qui vient d'entrer, et donc j'ai parlé avec lui hier et de toi, Seb.
Ah, eh oui. Ben on verra où il rebondira, mes amis. On verra.
Le petit Boisdi. Hein.
Ouais. Exactement.
Je l'ai croisé hier à la sortie de la conférence de presse et.
Pas le petit.
Et ben en fait le petit il est plus grand que moi.
Oui, ça c'est pas compliqué, mais
bon, je suis en 85 quand même.
Non, c'est vrai.
16 ans Boisdi, donc pépite lilloise, on le suivra avec beaucoup d'intérêt.
Il y a beaucoup de pépites, justement beaucoup de jeunesse dans cette équipe, et c'est pour
ça mais il faut pas les perdre, parce que tu vois, Yoro il va partir, il lui reste un an de contrat. Jonathan David, il lui reste un an de contrat, donc tu auras quand même des joueurs importants qui sont titulaires indiscutables.
Bah, les deux que tu viens de citer sont programmés pour partir.
Bah, t'es obligé de vendre, sinon c'est du zéro dans la poche. Hein.
Mais après c'est aussi dans le recrutement, et c'est là aussi, je pense que sauf si Lille va en Ligue des Champions, donc ça, forcément t'as plus de moyens et puis c'est une belle vitrine. Sinon, je pense que Paulo Fonseca partira.
C'est la question qu'on se posait. S'il y a Ligue des Champions, c'est un élément qui
est très pesé. Je serais pas surpris que l'OM soit sur lui d'ailleurs.
Il faut aussi voir les propositions qu'il aura. Moi, j'entends souvent sur quand un entraîneur est bon en Ligue 1, oui, il va rebondir dans un grand club. Moi, j'entendais beaucoup ça de, même si c'était un très grand entraîneur, Laurent Blanc. Ah oui, mais il va rebondir à Manchester United. Ah oui, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis très très prudente là-dessus.
Marion, elle veut Jean-Louis Gasset 3-4 ans encore à l'OM.
Ah, mais bien sûr.
On verra. Si Fonseca est sur la shortlist de Liverpool pour succéder à Klopp.
Un partout
le score final, c'est pour ça que je vous dis ça, entre Liverpool et Manchester City, donc statu quo au niveau du classement. Hein, c'était un beau match, une belle affiche, mais finalement pas de vainqueur. Donc pour le dernier duel entre Guardiola et Klopp en Première Ligue, et ça nous rend forcément un peu.
Oh, attention, David, dans la passion, et ça rentre. Oh, c'est le match qui va être lancé avec une belle passe
magnifique.
De Trévis Dago. Franchement, le petit travail effectué par ce jeune attaquant de 19 ans, il trouve Jonathan David dans la surface de réparation. Et le Canadien qui va relancer cette partie dans les dernières minutes. On s'endormait un petit peu. Eh bien, Jonathan David a réveillé tout le monde et les 40 000. On nous a dit qu'il restait 1000 places à vendre. J'ai eu les vrais chiffres. 41 000 spectateurs. Et donc, il y en a 8 000 qui ont disparu. C'est quand même incroyable.
Benoît, on parlait de passe tout à l'heure. On parlait de celle d'Agbadou. Mais celle-là, elle est magnifique.
La passe est sublime. Mais le contrôle aussi. Le contrôle pied droit, le ballon qui lui reste dans les pieds pour enchaîner pied gauche. Magnifique, l'attaquant canadien. Réduction de l'écart. On l'espérait forcément pour le suspense de cette rencontre.
Et son 13e but de la saison en Ligue 1.
Ah, ça c'est fort. Aussi 13 buts cette saison en Ligue 1.
Et des changements. De loin, parce que, à la trêve, il était qu'à 5 buts. Hein.
Oui, il avait mal démarré. Et là, c'est Kalimuendo qui va être remplacé par Terrier, Jean Baumel. Hein.
Ouais, Terrier formé où ?
Formé à Lille.
Exactement. Et il va être sifflé.
Exactement.
Ouais, l'ancien Lillois, passé par Strasbourg et.
Ouais, ils ne savent pas recevoir les Lillois, franchement.
Alors, ils sont durs avec les anciens.
Ce que je vous propose, là, on va se faire la fin de match en intégralité dans un instant. Mais auparavant, on va retourner au Qatar pour le dernier tour de la première manche de la saison de MotoGP. Paul Lafitte.
Et oui, avec une victoire qui se profile à l'horizon pour le double champion du monde en titre Pecco Bagnaia, qui aura dominé ce premier Grand Prix de la saison. Il compte quasiment une seconde et demie d'avance sur Brad Binder, qui va consolider sa deuxième place au nez et à la barbe de l'auteur de la pole position, Jorge Martin, qui avait remporté hier la course sprint et qui va donc remonter sur le podium. La quatrième position pour Marc Marquez au guidon de sa Ducati du team Grésiné. La cinquième place pour Enea Bastani. Nos Français sont un petit peu plus loin. Benoît, c'est normal, ils avaient peiné en qualification. La onzième place pour Fabio Quartararo et la treizième pour Joan Zarco sur sa nouvelle moto, son Honda du du team LCR. Et on va évidemment assister donc à la victoire. Encore deux virages à venir pour Pecco Bagnaia, qui est en route pour une 19e victoire en MotoGP, un 35e podium, peut-être un wheeling, lui qui a battu le record de la piste et qui a été flashé à 354 km/h au bout de cette ligne droite. Il s'impose devant Brad Binder, la 3e position pour Jorge Martin. Marc Marquez termine 4e devant Enea Bastani, le coéquipier de Pecco Bagnaia. On notera la très belle course de Pedro Acosta, la petite pépite du MotoGP, champion du monde de Moto2, qui termine donc en 9e position. Les Français terminent 11e pour Fabio Quartararo, 12e pour Johan Zarco.
Merci Paul Lafitte, bonne soirée à toi. Donc Pecco Bagnaia qui remporte le premier Grand Prix de la saison. Dans un instant on revient avec Sébastien Piocelle, avec Mario Hidalgo, la fin de ce match de la 25e journée de Ligue 1. Le suspense s'est relancé puisque Lille vient de réduire l'écart face à Rennes. 2-1 pour les Rennais, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h55 sur RMC l'Intégral Sport, et vous avez entendu Jean Baumel. 7 minutes de temps additionnel entre Lille et Rennes. Et bah 7 minutes de bonheur en plus. On embrasse les Paris. Parce qu'il y a du suspense. Au moins on est avec
exactement, ouais, ce but qui relance totalement cette partie. Ce but de Jonathan David à la 84e, son 13e de la saison. Et après des buts de Blas à la première minute et Kalimundo à la 19e. Et les Rennais qui pensaient être tranquilles dans cette partie, et on les sent un peu stressés. Hein. Ça bouge beaucoup, ça discute beaucoup, notamment avec Julien Stéphan. Le ballon dans les pieds lillois avec Goodmanson aux abords de sa phase de réparation. Il redonne un peu dans l'axe là avec Diakité qui trouve Cabella avec peut-être Goodmanson qui va redonner vers Yoro. On essaie de contourner la défense côté lillois, c'est un peu comme des handballeurs. Le centre au deuxième poteau, il y a une tête et la butte. Non, ça rentre, oui ça rentre, deux buts partout.
Incroyable.
Et c'est encore qui c'est Jonathan David, 14e but de la saison, le doublé pour le Canadien. Allez, les Rennais peuvent avoir la tête dans le sac parce que ils avaient totalement maîtrisé quasiment ce match. Ils n'ont pas fait le troisième but. Et là, Jonathan David, eh bien, heureusement qu'il est là. On va voir, il y a une petite réclamation. Mais pour l'instant.
On n'a pas revu les images encore.
Gibo, ça confirme tout ce qu'on a dit. Marion l'a dit, là, David dépendance. Ben voilà, il marque un doublé.
C'est qui avait dit qu'au match aller, ça fait 2-0 et 2-2.
Ah, c'est vrai, Gibo. Tu t'es rassuré comme t'as pu, mais c'est bon, le but est validé.
Bah, on revoit le ralenti du coup là.
D'abord, c'est Cabella qui met une tête.
D'abord, c'est Cabella qui met une tête.
Parade un peu compliquée de Steven Landa qui est à bout portant, donc qui n'est pas vraiment fautif. Il fait même un double contrôle du bas du ventre et avec les jambes derrière.
Mais il a amorti pour Jonathan David. Ouais.
Tu sais qu'il faut le mettre ce but quand même, Jonathan David. Déjà, il faut bien suivre l'action, puis il faut avoir le réflexe de mettre le pied avant Landa. Magnifique.
Il a mis le début du gauche, David.
Incroyable. Non, mais en ce moment, il est. C'est incroyable. Je crois qu'il a 16 buts avec la Coupe de France depuis rien qu'en 2024.
Ah ouais.
C'est un truc de fou.
Bon, deux partout entre Rennes et
c'est
et
pas
Lille.
Fini puisqu'il reste.
Quel coup dur pour les Rennais quand même.
Il reste exactement.
Ah, il reste 3 minutes, non
3 minutes, 4 minutes même, je
crois. Ah ouais.
Deux buts partout, terrible, attention.
Là pour
attention.
Rennes, je dirais un score comme celui-là. Là.
Ouais, mais en même temps, quand tu t'endors un petit peu. Finalement, il y a eu des. Encore une fois, on va dire, ouais, il est amoureux de Fonseca, le gars, mais. les changements faits aussi par. Même s'il n'a pas d'autre choix, mais ça reste des changements offensifs.
Bon, attention, et Lillois, tous les Lillois sont à l'attaque. Ça peut être chaud, là, avec l'accélération, on en perte de balle des Lillois. Et intervention, là, de monsieur Milo, qui va donner le ballon René, qui vont pouvoir souffler un peu. Non, il reste 4 minutes de temps additionnel. Hein. On est qu'à la 3ème et. Donc tout peut se passer dans cette partie et la dynamique forcément elle est du côté des Lillois. Deux buts partout.
Ouais, deux buts partout. Tu l'avais dit Marion, donc la dépendance de jeu à Jonathan David. Il inscrit un doublé, ce deuxième but qui est dur à marquer, mais le premier aussi d'ailleurs, avec le contre-pied droit, la frappe pied gauche. Ça a complètement modifié ce.
Du coup, on voit le classement et il repasse devant Lens.
Ouais, non, et puis il passe devant Lacazette aussi, deuxième buteur du championnat. Il est effectivement très impressionnant. On aurait pu penser qu'il pouvait s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Puis, bon, après l'été un petit peu difficile qu'il a vécu, non, c'est toujours. C'est pur, c'est extrêmement bien joué et je pense que ce qui me fait peur pour Lille, effectivement, c'est le nombre de joueurs qui vont partir l'été prochain. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de talent et on verra ça, on aura le temps.
Ouais. Enfin, allez, week-end prochain, il y a un Lens-Nice le samedi soir, un Brest-Lille et après on aura quoi ? Un Lille-Lens le vendredi 29 mars.
Ouh là là, ça c'est ton match.
Il peut être décisif ce derby en termes de place en Ligue des Champions, hein. Ça va être hyper intéressant. Mais t'es pour, ce qu'ils font
t'es
déjà
pour qui, toi, en fait, Lens ou Lille?
Oui, je vous le dis.
Non, mais moi, il y a un truc qui me ferait kiffer, les gars.
Il faudrait que tu le dises à l'antenne.
Les amis.
Bon. Non, moi, je le sais.
Et c'est d'avoir les deux en Ligue des Champions, c'est jamais fait.
Le mec pense à son planning.
Il veut pas se mouiller.
Non, mais le problème, c'est que je pourrais pas faire les deux. Europa League, ah, ouais. Ligue des Champions, c'est possible. Tu vois, tu joues
non, mais
mardi,
toi, ça te va bien de jouer la Ligue Europa Conférence, c'est très bien. Et déplacement en Autriche, tout ça.
Oui, mais le truc. Non, mais Ligue des Champions et une autre compétition européenne, c'est possible de faire les deux. Mais les deux en Ligue des Champions, non. À moins qu'ils jouent le mardi et le mercredi.
Tu veux vraiment voir Lens en Ligue des Champions et Lille en Ligue Europa, quoi.
Non, les deux en Ligue des Champions, c'est très bien.
Mais ils sont plus sympas à Lens, non?
Non, mais
bah, disons qu'ils ouvrent plus facilement les entraînements pour faire pour travailler à Lens.
Ça, c'est voilà. Pas
n'interromps ça, pas l'AS Monaco et l'OM quand même.
Non, mais parce que
là, je pense.
Tu sais, là, je prêche pour ma paroisse. Hein,
oui,
je
bien
sais
sûr.
Que je suis pas tout seul.
Ah, bah, bien sûr.
Surtout que Monaco a fait un grand pas déjà vers la Ligue des Champions et met la pression à Brest. Monaco revient à un point du Stade Brestois à 9 journées de la fin. On y va sur les dernières minutes. Jean-Romain, il reste moins de 2 minutes.
1:30 à jouer, le dégagement de Stéphane Nanda. La dynamique est lilloise et avec Guiri qui veut donner vers Terrier, le ballon qui est contré. Bah, il y a une main involontaire, mais il y aura donc le ballon et un coup franc en faveur des il n'est pas content, Euro, mais oui, sur le contrôle, le ballon touche ça.
Ouais, il la touche. Ouais.
Et donc, les Rennais, je pense qu'ils vont essayer de gagner un maximum de temps parce que là, ils ne veulent pas non plus passer de 3 points, de 1 à 0 points. Et il faut pour eux garantir au moins un point pris à Lille, ce qui est pas mal. Mais quand tu vois le scénario du match, il y aura pas mal de regrets parce que au niveau des points, ils sont désormais à 6 points de la 5e place, hein, les Rennais, enfin même 6 points de la 4e. Et c'est pas. Là, ils étaient bien relancés, hein, avec cette victoire qui s'est profilée. Le ballon dans la surface de réparation, Wu qui est monté. Mais interception de Lucas Chevalier qui veut relancer rapidement. Voilà qui est fait. Le ballon dans les pieds de Rémi Cabella. Ils vont essayer peut-être de tenter une dernière action offensive. Il reste 40 secondes. On renverse le jeu à droite. Il n'y a personne. La remontée de balle, elle sera pour Youssouf Yazic. Il franchit la ligne médiane. Il est dans le camp rennais. Il s'appuie notamment sur Goodmanson et Yazic qui a toujours le ballon. La dernière action, il renverse le jeu. Là, c'est Goodmanson qui récupère la balle de l'autre côté. C'était Thiago Santos. Et le ballon qui revient dans les pieds des Lillois avec Diakité. Thiago Santos peut-être en position de faire un dernier centre. Le centre, la tête du Joussagit. Yazic qui n'est pas touché, je pense, du sommet du crâne. Et la contre-attaque peut-être avec Guiri. Guiri qui va être à la lutte avec un bon retour défensif de Goodmanson. Il y a faute, il y a faute de Guiri. Sur Goodmanson, le ballon va revenir aux Lillois. Le temps additionnel est terminé à mon chrono. Ça continue. Monsieur Milo qui va peut-être laisser se dérouler la dernière action. Attention, les Lillois qui sont en position d'attaque. Il y a deux buts partout. Ils sont revenus de 0-2 à 2-2. Les hommes de Paulo Fonseca. Boisdi qui écarte le jeu sur la droite avec Youssouf Yazic. Le petit crochet du Turc. Le centre s'est dégagé. Monsieur Milo qui ne regarde pas son chrono. Le ballon qui court toujours dans les pieds lillois avec Yoro qui va peut-être mettre dans la boîte. Peut-être le dernier sort, on le préfère assurer, donner vers le Suédois Goodmanson. Goodmanson, pas trop de solution. Il écarte à gauche avec Rémi Cabella. Rémi Cabella qui est poursuivi par la défense rennaise. Ils n'arrivent pas à progresser. Pour l'instant, les Lillois, Monsieur Milo qui laisse encore le temps s'écouler. 45 secondes de plus par rapport aux 7 minutes initiales. Avec Youssouf Yazic qui a peut-être tenté le dernier centre. Le centre de Youssouf Yazic, c'est capté par Stéphane Mandanda. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Monsieur Milo, non, tu mets toujours pas le sifflet à la bouche. 8 minutes de temps additionnel. Alors que c'était 7 à la base. Et là, cette fois, c'est terminé. C'est terminé. 2 buts partout. Beaucoup de regrets pour les Rennais qui ont mené 2-0 jusqu'à la 84e minute de jeu.
Eh ouais.
Et ce doublé de Jonathan David qui permet donc à Lille de rester invaincu à domicile depuis le 26 septembre dernier et cette défaite contre Reims. Et surtout, reste au contact, repasse devant le voisin Lens à la différence de but.
Ouais.
Et Rennes, c'est un coup dur parce que dans la course à l'Europe, c'est 2 points de perdu.
Et on vous l'avait dit.
C'est cruel pour Rennes.
C'était un match passionnant. Cruel. Il y avait 2-0 à la mi-temps pour Rennes et Lille a fait le boulot en deuxième période. Score final 2 partout. Merci Marion Hedalo. Merci Sébastien Piocet. Merci à Jean Baumel.
Bonsoir à tous.
C'est Bartoli Time. Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet avec le débrief de la belle victoire du 15 de France au Pays de Galles. Le score 45 à 24. C'est dans un instant, ne bougez pas.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.